Et les matins se poursuivent avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'opposition prépare la riposte après cette confirmation. Le gouvernement utilisera bien le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. À quoi ressemblera le texte et quel rôle des syndicats dans tout cela? Nous y répondrons en début de journal.
Le gouvernement a aussi demandé la suspension des rassemblements de plus de 5000 personnes à cause du coronavirus. Le salon du livre à Paris est annulé alors que les hôpitaux organisent le tri des patients.
Les frontières de la Grèce sont en état de sécurité maximale face à l'arrivée de plusieurs milliers de migrants. La Turquie ne les empêche plus de passer. Nous irons à Lesbos dans ce journal.
Et puis direction ensuite Israël, où ont lieu les troisièmes législatives en 11 mois. L'impasse politique dure et les sujets de fond ne sont pas abordés, vous l'entendrez.
Enfin, vous comprendrez l'importance des archives concernant Pie XII au Vatican. Elles sont ouvertes aux historiens à partir d'aujourd'hui. Il disait vouloir laisser les débats aller jusqu'au bout, mais il n'en sera rien. La réforme des retraites passera sans le vote des députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Édouard Philippe l'annonçait samedi, contre toute attente, après un Conseil des ministres officiellement consacré au coronavirus. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour.
Pas de vote donc des députés en première lecture. Le texte arrivera au Sénat et ce sera celui du gouvernement.
Oui, dans la version modifiée, le gouvernement a retenu les quelques 200 amendements adoptés par la majorité à l'Assemblée nationale. Quelques-uns déposés par l'opposition, excepté ceux de la France insoumise, ainsi que des mesures issues des discussions avec les partenaires sociaux. Alors, pas de grands changements toutefois, rien de radical par rapport au texte initial. Par exemple, pour les indépendants, la phase de transition durera 20 ans et non 15 ans, comme le réclamait le groupe LR. Aux communistes a été concédé le maintien du départ à la retraite pour les égoutiers à 52 ans, pour se recruter avant 2022. Les socialistes ont obtenu la création d'un article pour garantir la retraite des enseignants. Les centristes de l'UDI décrochent un rapport sur la pension de réversion des pacsés. Les divorcés, eux, devraient en conserver une partie. Du côté des partenaires sociaux, c'est surtout la CFDT qui a été ménagée pour le moment. Sur le sujet sensible de la prise en compte de la pénibilité, le texte prévoit de généraliser la visite médicale à 55 ans pour les travailleurs exposés. Un texte qui peut évoluer, assure le gouvernement, qui dit vouloir améliorer les modalités d'acquisition de points dans le compte professionnel de prévention.
Et aujourd'hui, Annabelle, Édouard Philippe invite les partenaires sociaux à faire encore évoluer ce texte.
Oui, dans sa lettre aux partenaires sociaux, Édouard Philippe a beau leur assurer que le texte peut encore évoluer. Rappelons que la conférence du financement est prévue pour durer jusqu'à fin avril. Les syndicats opposés à la réforme ont laissé ce week-end éclater leur colère. Cette attitude est incompréhensible et inacceptable, a tweeté Yves Verrier, le leader de Force Ouvrière. Voici venir le temps de la violence institutionnelle avec le 49-3, a dénoncé son homologue de la CFE-CGC, François Auméril. L'attitude du gouvernement est profondément scandaleuse et donc il y aura une réaction à la hauteur, a menacé Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT a annoncé une réunion de l'intersyndicale à laquelle participe la FSU Solidaire ce matin pour discuter d'une nouvelle mobilisation. Ce pourrait être dès la semaine prochaine. La bataille n'est pas finie mais elle change de nature, avertit Laurent Berger. La CFDT qui n'a pour autant pas décidé d'aller manifester alors que des rassemblements spontanés ont déjà eu lieu samedi à l'annonce du 49-3, notamment devant l'Assemblée nationale et hier au Mont-Saint-Michel. Une centaine de gilets jaunes a formé une chaîne humaine symbolique.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. Au chapitre des réactions politiques cette fois, sachez que deux motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale, l'une par le groupe Les Républicains, l'autre par les socialistes, communistes et insoumis. Elles seront débattues demain, mais elles ont toutes les chances d'être rejetées par la majorité qui est, je vous le rappelle, présidentielle. Cette majorité toutefois se réduit petit à petit. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Michel Amiel, faisait partie des tout premiers à rallier Emmanuel Macron. Eh bien, il quitte La République En Marche après l'annonce de ce 49-3.
Faire ça un samedi soir, en pleine période d'une épidémie de coronavirus qui écrase quand même un petit peu le reste de l'actualité, on a l'impression d'un choix, certes juridiquement légal, mais l'impression que cela a été fait en catimini. Voilà ce qui explique ma décision ce soir. Le sentiment d'être plus utile dehors que dedans. Je n'adhérerai plus à aucun parti. Je ne me reconnais dans aucun parti. Une gauche qui est irréaliste, qui est démagogique. On a vu cette avalanche d'amendements à l'Assemblée nationale. Et une droite qui est hypocrite parce que finalement, le texte de la réforme des retraites était pas si éloigné que ça que peut proposer la droite libérale. Ce petit jeu risque de conduire en 2022 à des choses graves, une confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui pourrait aboutir à une catastrophe.
Le 49-3 et ses conséquences encore, une chorégraphie pourtant bien réglée. Frédéric Saïs y reviendra dans son billet politique, ce sera après ce journal. Alors nous avons entendu à l'instant un parlementaire qui dit regretter que les astuces politiques prennent le pas face à la crise sanitaire qu'est le coronavirus en ce moment. Ce dernier se répand petit à petit en France avec 130 contaminations depuis le mois de janvier, principalement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département de l'Oise. L'Oise où les établissements scolaires de 9 communes resteront d'ailleurs fermés pendant 2 semaines et où les hôpitaux s'inquiètent déjà du manque de personnel. Quel travail d'ailleurs doivent effectuer les établissements hospitaliers en ce moment face à ce coronavirus? Voici les précisions du docteur Karine Lacombe, interrogée par Nourane Mahmoudi. Elle est chef de service d'infectiologie à l'hôpital parisien Saint-Antoine et elle reçoit déjà des patients.
La majorité des gens qui vont être porteurs du virus vont être porteurs asymptomatiques. Une autre partie va exprimer des symptômes relativement mineurs, comme des rhumes, peut-être des rhumes pour certains un peu plus importants, type grippe. Et une petite partie des personnes vont avoir des pneumonies. Donc en fait, ce sont ces patients-là qu'on va hospitaliser. Et parmi les patients qui font des pneumonies, certains vont faire des syndromes de détresse respiratoire aiguë et vont relever de la réa. Donc nous, tout notre travail qu'on va avoir à faire à partir de maintenant, ça a commencé là ce week-end, c'est de faire le tri entre les personnes qui nécessitent d'être hospitalisées avec des précautions standards. Donc ça peut se faire dans n'importe quel service de médecine. Ensuite, les autres qui n'ont pas de symptômes ou des symptômes mineurs vont retourner à domicile avec une surveillance médicale.
Un des propos recueillis par Nourane Mahmoudi. Pour éviter la transmission du virus, il est plus que jamais recommandé d'éviter les contacts, en serrant les mains notamment. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés les uns après les autres en France. C'est le cas à Paris du Salon du Livre qui devait avoir lieu dans 2 semaines. Le musée du Louvre est resté fermé hier, il le sera ce matin avant de décider de la suite. L'économie de la culture, l'économie du spectacle s'inquiète, comme avant elle les entreprises du monde entier. Les places financières s'inquiètent aussi jusqu'au Moyen-Orient, de Riyad à Dubaï, Nabila Hamel.
Ouverts du dimanche au jeudi, la plupart des marchés de la région sont dépendants du pétrole. Or, la demande a considérablement baissé, celle de la Chine surtout, qui absorbe en temps normal 1/5 de la production d'or noir en provenance du Golfe. En temps normal, car depuis la fin janvier, l'activité économique dans l'Empire du Milieu est largement paralysée par les mesures prises contre la contagion du coronavirus. L'inquiétude est donc perceptible chez le géant pétrolier qu'est l'Arabie Saoudite avec l'Aramco. Considérée comme la compagnie la plus rentable au monde, elle pompe près de 10 millions de barils par jour, soit 10% de la demande mondiale. Voilà pourquoi Riyad et l'OPEP pourraient du coup défendre une nouvelle réduction de la production lors de la réunion du cartel prévue cette semaine à Vienne, histoire de ne pas laisser les cours dégringoler encore. Jean-Pierre Favennec, professeur associé à Sciences Po Paris Dauphine.
C'était la crise iranienne qui a fait monter à un moment le prix du pétrole. Maintenant, c'est le coronavirus qui fait baisser le prix dans la mesure où la demande diminue. L'Arabie Saoudite peut sans doute essayer de réduire assez sensiblement sa production pour mettre le marché à peu près à niveau. Est-ce que cet effort sera suffisant? Même s'il y a une forte baisse pendant quelques temps, cette baisse ne devrait pas durer des mois et des mois. Mais dans l'instant et à l'instant même, il est possible que le prix du brut continue à baisser encore pendant quelques semaines du fait de l'incertitude que l'on a sur la progression de l'épidémie.
La Russie, non membre de l'OPEP, jouera-t-elle le jeu d'une nouvelle réduction de la production pétrolière? Vladimir Poutine ne semble pas le souhaiter. Il a jugé hier que les cours du brut étaient acceptables pour le budget de son pays.
Et concernant l'économie française, le ministre français Bruno Le Maire estime à l'instant que l'impact sur la croissance sera beaucoup plus significatif que prévu. J'ajoute par ailleurs qu'au niveau mondial, le bilan s'élève désormais à plus de 3000 morts, dont 2900 en Chine, 54 morts en Iran, 34 en Italie et 22 déjà en Corée du Sud.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réa. L'armée turque continue son offensive sur le nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idlib.
Oui, 2 avions du régime de Damas ont été abattus hier, 19 soldats syriens tués par des drones turcs. Ankara appelle son offensive l'opération bouclier du printemps. l'Iran et veut dans le même temps mettre la pression sur l'Europe pour qu'elle s'engage. Les frontières turques vers l'Europe sont donc ouvertes. Et la Grèce est d'ailleurs en état d'alerte maximum face aux centaines de migrants qui s'y dirigent déjà. Cela provoque inquiétude et colère dans les localités frontalières et sur les îles. Marie-Pierre Voreau est notre envoyée spéciale en Grèce à Lesbos, où des habitants ont mis le feu hier soir à un centre d'accueil inoccupé de migrants. Ils ont aussi empêché une cinquantaine de personnes d'accoster, leur criant de rentrer en Turquie. Voici donc le reportage de Marie-Pierre Véraud.
Pas de migrants, pas d'illégaux. Avec une petite centaine d'autres hommes, parfois armés de bâtons, brandissant des drapeaux grecs, Yanis, ancien chauffeur de bus pour touristes, s'est reconverti en gardien de la route du camp. Apostolos est venu lui prêter main forte.
Nous, les civils, nous protégeons le village de Moria afin qu'aucun illégal n'entre plus dans notre village. Il faut qu'il soit examiné par des docteurs. Avec le coronavirus, la situation est très sérieuse. S'il y en a un qui a le virus, tout le monde sur l'île va l'attraper.
Yanis prévient.
Moi, j'ai un message pour Emmanuel Macron. Il doit aider les Grecs, parce que si cela déborde d'ici, la France aura des problèmes. Il faut qu'il s'occupe d'Erdogan, sinon nous aurons un problème. Toute l'Europe aura des problèmes. Et si le gouvernement ne fait rien, nous prendrons la loi entre nos mains. C'est nous qui ferons la loi. Et nous leur ferons la guerre. Et ce sera eux ou nous.
Quelques kilomètres plus au nord, vers le port de Thémis, c'est déjà le cas. Un nouveau bateau se fait alpaguer par un autre groupe qui refuse tout débarquement. Crie aux gardes-côtes de renvoyer les migrants chez eux avant de faire la chasse aux journalistes et aux ONG. Les demandeurs d'asile afghans, syriens, irakiens ou congolais ne pourront être enregistrés. Lesbos refuse désormais d'être un hotspot. Les migrants ont passé la nuit sur les plages glaciales ou dans le port gardé par la police. Un centre d'accueil du Haut Commissariat aux réfugiés a été incendié. La Compassion de 2015 n'est plus de saison. Plus de 20 000 demandeurs d'asile croupissent dans cette petite île qui se sent abandonnée par l'Europe. C'est désormais une colère ouverte qui fuse de toutes parts.
C'était Marie-Pierre Véraud depuis Lesbos pour France Culture. Partons maintenant en Israël où commencent des législatives. Les troisièmes en moins d'un an, faute de consensus pour trouver un gouvernement de coalition. Le choix est toujours le même avec deux favoris, le premier ministre sortant de droite, Benjamin Netanyahou, ou le centriste, Benny Gantz. Il reste au coude à coude dans les sondages, dans une ambiance toujours délétère. On ne parle pas des sujets de fond, processus de paix, santé, éducation, pouvoir d'achat, ni même pauvreté. Et pourtant, le sujet est majeur dans le pays. C'est ce que nous dit Gilles Darmon. Il préside La Tête, la première ONG israélienne d'aide aux plus pauvres.
Vous avez aujourd'hui en Israël plus de 21,2% de la population qui vivent en situation de pauvreté. Ce sont les communautés juives orthodoxes israéliennes et les communautés arabes israéliennes. À cela, il faut rajouter une partie des nouveaux immigrants, notamment la communauté éthiopienne israélienne. C'est quelque part l'envers du décor de la fameuse Startup Nation. Une partie de la population israélienne n'a pas profité des fruits de cette croissance spectaculaire depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ça reste aujourd'hui malheureusement un sujet marginal dans la campagne électorale parce que les pauvres sont silencieux. L'élite politique israélienne n'est pas formée aux sujets sociaux. La technique politique aujourd'hui continue de se structurer autour des questions de sécurité. Donc tant que ça sera la grille d'évaluation d'un politicien israélien, on aura une difficulté à mettre la question sociale sur la table. C'est à mon sens une véritable menace existentielle que un tel niveau de pauvreté aujourd'hui dans la société israélienne.
Un des propos recueillis par Frédéric Mettezo qui suit pour nous ces législatives en Israël. Aux États-Unis, notons cette surprise dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Pete Buttigieg, 38 ans, renonce. Ce modéré avait créé la surprise en s'imposant lors du premier caucus dans l'Iowa il y a 3 semaines, mais il a fait un mauvais score ce week-end en Caroline du Sud. Cela renforce les chances de Joe Biden face au favori plus à gauche, Bernie Sanders, alors que demain aura lieu le Super Tuesday, élection dans 14 États en même temps. Les archives du Vatican se dévoilent un peu plus. À partir d'aujourd'hui, toutes celles qui concernent le pontificat de Pie XII entre 1939 et 1958 seront ouvertes aux historiens qui veulent étudier l'attitude controversée du pape face à la Shoah. Et donc, ils auront de quoi faire, Bruce de Galzin.
Dans le bunker des archives du Vatican, il y a 85 kilomètres d'étagères. Depuis 13 ans, les archivistes ont compilé 16 millions de pages pour le seul pontificat de Pie XII, le pape accusé de ne pas avoir condamné l'extermination des Juifs. C'est une pièce de théâtre, le vicaire d'un jeune Allemand en 1963 qui lance la polémique, reprise dans le film de Costa Gavras en 2002. Amen.
Miséricorde, sa mère, pour le peuple du Christ.
Le doute subsiste, le Vatican est confiant. Pie XII n'a pas désigné le crime nazi pour ne pas l'aggraver. Selon Johann X, des archives de la secrétaire d'État, des documents internes au Vatican seront révélés.
Si vous êtes complètement fixé sur la guerre seulement, oui, on peut pour 5 ans, nous, donner des informations très très chaudes. Il y a 2 nouvelles documentations. On va voir maintenant peut-être beaucoup plus de matériel. Parce que il y a aussi la documentation interne. Toute la discussion du bureau au sein, disons, de la secrétaire d'État, qui en effet avec le pape, quotidiennement, doit décider sur des situations graves et terribles.
Plus de 200 chercheurs sont déjà inscrits, mais il faudra des années de recherche avant de connaître la vérité.
Le temps de ce lundi en France métropolitaine, il sera pluvieux et venteux sur la quasi-totalité du pays. Ce matin, il fait 7 degrés à Lille et Paris, 10 à Lyon et Bayonne, 15 degrés sur la Corse.